Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 144, et aujourd'hui, on s'entretient avec Hélène Sarah Bécotte pour savoir comment calculer sa réelle capacité dans son business.
Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde.
Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente parce que... Je parle pour une deuxième fois sur ce podcast à une personne que je respecte énormément dans l'entrepreneuriat en ligne, mais aussi en tant que maman, en tant que femme ambitieuse, en tant que personne d'une grande sagesse et intelligente. Et j'ai nommé Hélène Sarah Bécotte qui, comme je viens de le mentionner, là, revient pour une deuxième fois sur le podcast. Hélène Sarah, que je connais depuis plusieurs années, et ce que je trouve le fun avec la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'elle émane de un désaccord sur quelque chose qu'elle avait écrit sur un réseau social, là, sur Threads, et on a commencé à avoir une petite discussion où on a approfondi un peu ce que chacune on pensait de la question, et ça a ouvert la porte à beaucoup de richesses. Et je pense que c'est important de nommer ça, parce que de nommer la façon par laquelle ce genre de conversations sur le podcast, des fois, sont générées, parce que bien souvent, on a peur de publier, parce qu'on a peur que les gens vont pas être d'accord avec nous, parce qu'on a peur de dire quelque chose qui est pas... où on va devoir s'expliquer, puis des choses comme ça. Et je trouve que c'est justement une des beautés des réseaux sociaux, c'est qu'on peut avoir ces divergences d'opinion ou ces divergences de vision. Et quand on est capable d'avoir une conversation, ben c'est là qu'on voit que ça mérite de part et d'autre d'être enrichi, d'être approfondi par les perspectives des autres. Et c'est ça qui s'est passé ici avec cette conversation-là où Hélène Sarah avait fait une publication sur le thème du mindset versus de la capacité en relation avec le nombre de revenus qu'on était capable de faire dans une entreprise. Et puis naturellement, ben moi comme coach, j'avais quelque chose à dire sur sa définition et je vous laisse découvrir ce que c'est dans notre conversation là, qui va débuter prochainement, là, sous peu. Avant qu'on embarque dans l'entrevue, je voulais quand même vous dire qui était Hélène Sarah si vous ne la connaissiez pas. En fait, la force d'Hélène Sarah, c'est de calculer. Hein, calculer surtout comment éviter de faire des heures supplémentaires dans sa business en budgétant son temps tout en maximisant sa rentabilité. Donc, Hélène Sarah, c'est une fille de chiffres, hein? Elle calcule plein de choses, notamment quand c'est le temps d'engager quelqu'un dans son entreprise. Elle calcule combien de temps passer sur son marketing, ou même elle nous aide à calculer si notre projet de formation en ligne est vraiment rentable pour nous ou non. Et pour ça, ben, elle a créé une bibliothèque de ressources et d'outils gratuits sur le site calcul.ca. Donc, je vous encourage vivement à aller visiter ce site-là, hein, qui est mis dans les notes de cet épisode si jamais vous cherchez le lien, parce que son but avec cette bibliothèque de ressources, c'est d'aider les travailleurs autonomes à répondre à toutes ces questions beaucoup plus facilement, puis ensuite de prendre des décisions beaucoup plus stratégiques pour l'avenir de leur business. Alors voilà pour Hélène Sarah, et puis je vous laisse sans plus attendre avec notre discussion sur la capacité, la croissance et le mindset. Salut Hélène Sarah, bienvenue sur l'Ambition féminin, comment ça va?
Merci, ça va bien toi?
Ça va super bien, c'est ta deuxième fois sur le podcast.
Ouais, ça fait longtemps quand même!
Ça faisait longtemps, mais c'était quand même... C'était dans le temps où je faisais plus d'entrevues, je pense. Puis là, je suis contente de reprendre le rythme avec les entrevues et que cette personne, ce soit toi qui va briser la glace des entrevues.
Merci!
Pour celles qui ne te connaissent pas, ben là, j'ai présenté un petit peu en introduction, mais disons qu'on fait... Bon, je sais pas trop c'était quand exactement notre dernière entrevue, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans les derniers... disons, dans les derniers 6 mois, dans, tu sais, puis aussi au niveau de ton business, tu sais, où est-ce que tu en es aussi dans tes réflexions?
Ouais, c'est vraiment une bonne question. Je pense que quand on s'était parlé la dernière fois, je faisais encore beaucoup de travail de recherche et développement. Tu sais, je créais beaucoup des outils mathématiques pour les autres. Puis, tu sais, dans les derniers mois, ce qui s'est passé, c'est que, bon, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai eu 2 enfants à l'intérieur de 3 ans. Fait que le plus jeune est rentré à la garderie cet été. Fait que, tu sais, c'est ça qui s'est passé. Dans les derniers 6 mois, j'étais donc en congé de maternité, à gérer la business à côté. Un enfant avec moi transitionne petit à petit vers la garderie. Puis... j'ai l'impression tellement que je vais dire d'affaires avec ça, mais tu sais, évidemment qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma réflexion. J'ai fait quand même un gros switch au niveau de mon modèle d'affaires pour vraiment prioriser la création d'outils et de tutoriels pour les travailleurs autonomes dans un premier temps pour qu'ils soient capables de mieux calculer ce qui se passe dans leur entreprise puis qu'ils soient capables de... tu sais, bonifier leur réflexion par rapport à ça. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que le grand shift qui s'est fait pour moi, tu sais, peut-être que si je vais plus globalement dans la dernière année avec, donc, mon dernier enfant, c'est le fait que j'ai vraiment, pour moi, c'est devenu d'une évidence même que ce savoir-là, ces connaissances-là devaient être publiques, devaient pas être cachées derrière un mur payant, puis que c'était juste à moi à me débrouiller pour monétiser de quoi autour de ça, mais la mission de rendre ça accessible, de rendre la connaissance simple, ça a juste comme fait gérer mes troubles financiers après, puis je veux juste comme, je veux juste mettre ça out there en premier, puis c'est ça. Fait que c'est pas mal ça qui s'est passé. Je sais pas si c'était complet, clair.
Oui, tout à fait, complet, clair, on a tout compris. Puis aussi, je trouve que, je pense qu'on s'était parlé, tu sais, beaucoup en plus en détail il y a quelques années, où tu étais encore justement dans l'opérationnel avec des entreprises... qui faisait du prototypage, puis des choses comme ça. Puis là, maintenant, tu as fait ton switch vers des travailleurs autonomes. Mais ben, c'était déjà préexistant à ce moment-là, mais là, t'es vraiment allé all-in.
Ouais, exact. T'sais, c'était vraiment un concept que j'avais tellement envie d'aborder, mais je pense que je savais juste pas trop comment le faire. Puis je pense que j'avais besoin d'avoir mes propres expériences, disons, avant. Fait que c'est ça. Fait que avoir vraiment une... Tu sais, je pense qu'à une certaine époque, tu sais, j'ai eu des employés, j'avais vraiment plus une petite agence boutique de consultation. Puis ça m'a vraiment permis de tester justement les limites de mes équations puis comment ça pouvait m'aider à prendre des meilleures décisions. Là. Fait que là, c'est ça. Là, maintenant que j'ai observé, je peux conseiller, si on peut dire.
Observer, incarner, et là, genre, tu peux conseiller.
Ouais.
Ouais, bon, puis... Bon, moi, je suis beaucoup ton contenu, je suis abonnée à ton infolettre, je suis dans ton groupe Calcule-moi ça.
Oui.
Donc, je suis ton travail de près parce que je le trouve intéressant, même si, bon, on a des cibles parfois adjacentes, mais différentes un peu.
Oui.
Mais récemment, on était sur Threads et j'avais fait une publication qui m'avait fait tendre l'oreille, disons. Et
je
vais la lire, parce que Threads, c'est pas des longues, longues publications, mais c'est ce qui m'a inspiré cette invitation là, de vouloir t'inviter ici pour qu'on en parle, parce que ta publication disait « Ton mindset n'a rien à voir avec la capacité de ton entreprise à pouvoir supporter 10 000 $ de revenus par mois, et entre parenthèses, et les clients plus la charge de travail que ça implique, c'est 2 enjeux séparés.
Okay? » Ouais.
Puis là, pour ceux qui ont besoin de le entendre, là, je le fais rapidement, là, ton mindset n'a rien à voir avec la capacité de ton entreprise à pouvoir supporter 10 000 $ de revenus par mois et les clients, la charge de travail que ça implique. C'est 2 enjeux séparés. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que de mon côté de coach, je trouvais ça intéressant de voir le terme capacité et mindset comme séparés, vu que pour beaucoup, le mindset, hein, c'est un type de capacité ou de développer un type de capacité. Donc, on commence avec comment toi, tu comprends le terme capacité et la nuance que tu fais avec une capacité qui serait plus émotionnelle ou psychologique
du type. Ouais, c'est tellement... En fait, le mot capacité peut tellement avoir plusieurs angles là-dedans, puis c'est ça qui, tu sais, je comprends tellement... Je pense que de la façon que tu l'as reformulé, je comprends vraiment à quel endroit ça peut faire comme... Tu sais, il y a vraiment de quoi de chaud là-dedans. La capacité, dans un langage qui est plus opérationnel, hein, parce que moi, c'est ce que je fais, je calcule les opérations de la business. La capacité, c'est la quantité de travail ou de valeur qui est réalisable par le monstre qui est l'entreprise. Si je peux dire ça comme ça. L'entreprise étant une entité, c'est là où ça peut devenir des fois tricky parce que quand t'es travailleur autonome, tu es l'entreprise. Donc bon, c'est sûr qu'il y a ça, mais la capacité, tu sais, mettons la capacité d'une machine, souvent ça va se traduire par le nombre d'unités qu'elle peut produire par jour, par exemple. Donc tu sais, si je le traduis à un entrepreneur de service, ben la capacité, ce serait le nombre de clients qu'il peut prendre par mois ou par année. Puis, évidemment, quand tu as un nombre de clients maximal par année que tu peux prendre, bien, nécessairement, tu as un montant de chiffre d'affaires maximal que tu peux atteindre par année. Fait que pour moi, c'est vraiment un... C'est une borne... La capacité est une borne supérieure de valeur que tu peux créer dans ton entreprise. Évidemment, c'est pas absolu, mais c'est en fonction de ta structure actuelle, donc en fonction de tes prix, en fonction de tes processus. Tu sais, en fonction de qu'est-ce qui sont les petits éléments qui composent ton entreprise. Puis la capacité, ça, je pense que c'est un truc que j'avais aussi nuancé. La capacité, c'est vraiment un fait qui est ici et maintenant. Donc, ta capacité aujourd'hui peut être différente de ta capacité demain, surtout si tu mets en place des améliorations, par exemple. Fait que ça, c'est un élément qui peut le faire varier. Puis là où la capacité émotionnelle, tu sais, là, je comprends qu'il peut avoir une petite zone d'ombre, c'est que clairement, des fois, tu sais, par exemple, je vais prendre peut-être plus l'aspect fatigue qui me touche beaucoup. l'aspect fatigue qui, évidemment, pénalise ma capacité émotionnelle va nécessairement affecter ma performance et donc va affecter la capacité opérationnelle de mon entreprise. Mais tu sais, je pense que ici, il y a quand même une espèce de... j'allais comme faire un mime de glissade, là. Il y a comme plusieurs petites affaires à considérer. Tu sais, j'irais pas jusqu'à dire que capacité émotionnelle égale capacité opérationnelle, mais clairement, tu sais, disons, dans la notion de ma capacité opérationnelle d'aujourd'hui, pour savoir c'est quoi le maximum de valeur que je suis capable de créer, j'ai besoin de regarder ma ressource principale qui est moi-même et elle, c'est quoi sa capacité aussi. Fait que je sais pas si cette nuance-là... Tu sais, parce que, mettons, dans mon cas, la fatigue, ben ça va me prendre... L'impact que ça a, c'est que ça va me prendre plus de temps pour effectuer la même tâche. Donc, si j'ai besoin de plus de temps pour faire une tâche, ça fait en sorte que je peux en faire moins de tâches. Fait qu'il y a ça. Fait que la capacité, il y a ça. Puis, tu sais, je comprends que la capacité, plus dans un contexte, tu sais, c'est ça, mindset, ben souvent, ça va être « je suis capable de... »
Oui, puis moi... Tu sais, souvent, moi, je vois la capacité comme je suis capable de me régulariser à travers un plus grand range d'expérience. Puis, je pense que c'est là ici qu'il y a comme une nuance vraiment intéressante entre ton expertise puis mon expertise parce que, par exemple, si une personne n'est pas capable de gérer émotionnellement un lancement à... dans les multiples 5, 6 chiffres, tu sais, etc., là, parce que les hauts et les bas émotionnels qui viennent avec le risque et avec le potentiel échec et avec toutes ces choses-là, c'est un type de capacité qu'on développe et qui nous, parfois, nous met des plateaux ou des bloquants qui nous empêchent d'aller vers la capacité de notre entreprise jusqu'à un certain point.
Ouais, absolument. Puis tu sais, je pense en fait que ce qui me... tu sais, la réflexion initiale m'est venue du fait que je trouve que, ben, tu sais, déjà, le concept de capacité que j'amène, genre, à toutes les fois que j'en parle, les gens sont comme, oh, tu peux le calculer! On dirait qu'il y a comme quelque chose de juste, comme, les gens réalisent même pas qu'ils peuvent clairement définir c'est quoi leur plateau de revenus, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a ça d'un côté, puis de l'autre, il y a tellement, le mindset, c'est tellement à la mode, puis on est tout le temps, c'est comme si le mindset était le premier pas, en fait, alors que ce n'est pas le premier pas. Tu sais, mm-hmm. d'un côté, je veux dire, si ton entreprise n'a pas les infrastructures pour t'amener à 10 000 $ de revenus par mois, travailler d'abord sur ton mindset ne te fera pas aller à 10 000 $ par mois. La première étape, c'est de comprendre que tu ne peux pas, en ce moment, d'y accéder. Investiguer c'est quoi les différentes actions que tu pourrais mettre en place. Puis là, pour les mettre en place, va travailler ton mindset, tu comprends? Mm-hmm. Mais tu sais, l'un et l'autre sont extrêmement importants, là, tu sais. Jamais, au grand jamais, j'irais dire que de pas travailler son mindset, c'est genre la chose à faire. Oublie, là! Je veux dire, on a... c'est vraiment important que, tu sais, tu sois capable de regarder les actions puis de les opérationnaliser de façon comme... à tête mm-hmm. reposée, en tout cas, je sais pas si je le... Mm-hmm. Mais c'est ça, fait que tu sais, pour moi, en fait, le c'est... Peut-être que j'ai été harsh dans ma façon de dire que ton mindset n'a rien à voir avec la capacité de ton entreprise à pouvoir supporter 10 000 $ de revenus par mois, mais dans l'optique où 10 000 $ par mois, c'est un fact opérationnel,
ouais.
Ben, tu sais, il y a ce check-up-là à faire avant, puis il n'y a personne qui le fait. Tout ouais. le monde va travailler son mindset avant de réaliser c'est quoi qui est possible. Avec leur entreprise. Puis tu sais, je pense une chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que des fois, en fait, d'investiguer ce que les chiffres disent, ça te permet de réaliser que ton problème, c'est le mindset, justement.
Mm-hmm.
OK? Mm-hmm. Je te donne un exemple. Tu sais, mettons, hein, je vais revenir, je vais vraiment me prendre comme mon sujet d'étude de cas aujourd'hui, OK? Donc là, tu sais, comme je disais, je suis bien fatiguée ces temps-ci. Fait que, tu sais, il y a eu certaines périodes, évidemment, qui étaient plus lentes. Puis là, rajoute à ça le fait que je veux juste donner mon savoir gratuitement, qui clairement, économiquement, à court terme, est pas une idée géniale. Mais bon, ça, on repassera sur mes choix de carrière. Tu sais, je me suis rendu compte à un moment donné, en faisant ma planification, que je ne faisais pas les... Mon entreprise avait la capacité de générer plus d'argent que ce que je faisais en ce moment. Puis que les actions que je posais étaient celles d'un chien perdu, littéralement. Mmh. En observant mes chiffres, puis tu sais, je veux dire, c'est ça que je fais dans la vie, OK? Je sais regarder des chiffres et identifier c'est quoi les actions qui ont le plus fort potentiel. Puis je me suis rendu compte que je m'obstinais à faire des actions avec un potentiel pourri. Parce que j'étais dans une loupe de hamster, parce que j'étais tellement fatiguée, parce que j'étais tellement juste dans le hustle, puis comme, tu sais, quand t'es fatiguée, tu deviens vraiment perdu, puis t'es pas là, puis tu fais pas justement l'exercice de t'asseoir, puis de juste comme faire, puis de travailler sur c'est quoi qu'il faut que je fasse, c'est quoi mes capacités. Puis là, tu sais, il a fallu vraiment que je m'auto comme cadre, donc à travailler mon mindset pour être capable de faire, OK, mais là, c'est parce que t'as le choix, soit t'acceptes le fait que t'es un chien perdu en ce moment, où tu mets des actions pour atteindre la capacité opérationnelle de ton entreprise, tu comprends? Fait que c'est là où les deux apportent un élément qui est différent, mais, je veux dire, la capacité de ton entreprise à pouvoir supporter 10 000 $ même si ton mindset n'est pas là, ton entreprise a quand même une capacité par elle-même à générer ou pas ce chiffre d'affaires-là.
Ouais. C'est ça. Elle est là dans... le modèle que t'as choisi.
C'est ça, c'est exactement ça. T'as choisi une forme pour vendre tes services ou tes produits, puis tu sais, ça a ses limites. Mm-hmm. Ça a juste ses limites, tu sais, c'est pas vrai. Il y a littéralement aucun modèle d'affaires qui est ce qui est là-bas à l'infini, là.
Ben, c'était ça, une de mes questions.
Oui, est-ce que finalement, j'ai trouvé une plug.
On parle souvent de la croissance exponentielle, puis les revenus exponentiels, puis blablabla, tu sais, c'est comme cette espèce de discours pays des licornes là, qu'on entend, puis je pense que ça parle aux gens parce qu'ils ont l'impression qu'à un moment donné, ils vont taper dans ce modèle d'affaires où il n'y a plus de plateau, mais selon ce que tu dis, ça n'existe pas, ça.
Il y a toujours un plateau. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a toujours un nombre limité de gens qui existent.
Mmh. OK?
Il va toujours avoir, pour le type de produit ou service que tu vends, une quantité maximale, donc limite, de clients potentiels. C'est ça. Tu sais, je veux dire, si tu veux des revenus illimités, t'as juste à arrêter de mourir, comprends-tu? Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est vrai, là. Même les plus grosses entreprises ont un chiffre d'affaires maximal, puis genre, on va exagérer, OK? Mais une entreprise qui aurait le monopole de littéralement toute l'économie terrestre aurait quand même un cap. Puis c'est quoi? Ben, ce serait l'argent qui existe sur Terre. Mm. Il existe des limites supérieures. Puis, ces limites supérieures-là vont varier en fonction de à qui tu t'adresses dans un premier temps. Fait que là, ça, pour moi, c'est vraiment, tu sais, la limite universelle que, genre, oui, tu sais, oui, tu peux augmenter tes revenus, OK? Oui, tu peux avoir une croissance exponentielle, donc tu peux augmenter tes revenus. Mais de là à croire que c'est infini, genre, sérieux, mm-hmm. c'est comme, genre, mathématiquement, c'est impossible. Genre, in real life, là, dans la vraie vie, là, il y en a un cap, tu sais.
Ouais, parce que je pense que ça aussi, c'est une mauvaise compréhension du concept de exponentiel. Parce que dans exponentiel, il y a comme quelque chose d'infini. Ben,
ouais, c'est ça.
Je me rappelle de mes mathématiques.
C'est quelque chose d'infini. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu peux avoir une croissance, mais à un moment donné, si cette croissance-là, elle atteint le bassin de clients maximal, tu vas avoir un plateau. Puis ça se pourrait qu'année après année, tu continues de faire cette même quantité maximale-là d'argent, mais ça reste que ton entreprise, au lieu d'être en phase de croissance, tu vas être en phase de stabilisation. Puis à ce moment-là, la seule manière de continuer à faire des revenus, ça va être de trouver un nouveau marché. Ça va être de, tu comprends, ça va être de diversifier. Puis tu sais, regarde les plus grandes entreprises au monde, il n'y en a pas une qui ne vend qu'une seule chose. Mm-hmm. Si tu veux être une grande entreprise, tu n'as pas le choix d'avoir un portfolio diversifié. C'est ça qu'ils font. Tu sais, les multinationales, là, ils ont littéralement un portfolio de marques. Ouais. Puis c'est ça qu'ils font. Puis à un moment donné, la plupart, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils finissent juste par acheter plein d'autres compagnies, puis c'est comme ça qu'ils finissent par croître. Parce qu'ils achètent la masse de clients d'une, tu sais, indirectement,
ouais.
là.
Ouais. Ouais, donc si on fait juste visualiser dans notre tête, la croissance exponentielle, c'est pas tant une courbe exponentielle, sinon que la partie exponentielle dans une courbe qui va atteindre un plateau.
Exact.
Puis qui éventuellement va redescendre.
Pourrait redescendre, ou
stabiliser.
Exact.
Okay. Puis nous, quand on parle de croissance exponentielle, ben on parle juste de cette petite curve-là qui monte, là, puis qui fait que, tu sais, année après année, whatever, on augmente nos revenus. Puis là, selon ce que je comprends de ce que tu dis, ça, c'est intimement lié à notre capacité d'entreprise, mais la façon dont on gère...
La capacité de ton marché. La capacité de ton marché à acheter tes cossins. Plus ou moins, là, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a quand même deux concepts qui sont séparés qu'on parle, là. Fait que, tu sais, il y a le cap de revenus potentiel que tu pourras aller chercher, qui est vraiment la taille de ton marché. Là, en réalité, c'est ça. Là. Mm-hmm. Tu t'estimes la taille de ton marché, t'estimes la valeur que ce marché-là comprend, puis tu sais, souvent, tu vois ça aller, là, genre, l'industrie des influenceurs vaut pour 4 milliards de dollars. Bon, OK, c'est ça, OK. Mm-hmm. Ça, c'est la valeur du marché, OK, guys? Puis là, à côté, c'est ça, il y a la capacité de ton entreprise à aller chercher une part de ça. Donc, c'est comment ton entreprise est structurée puis comment ça peut soutenir la croissance. Parce que là, c'est faux de dire aussi que à travers ça, ton entreprise, elle va être capable de juste progressivement aller chercher plus de revenus, OK? Genre, tu le sais, je le sais que tu le sais, t'es en phase d'embauche puis t'agrandir ton équipe, OK? Genre, on s'entend-tu que quand tu crois, ce n'est pas linéaire, OK? Ce qui se passe quand tu crois, OK, c'est que là, t'es comme, t'as une phase où, tu sais, t'es capable d'avoir plus de ventes, OK? Fait que là, tes ventes font ça, puis là, à un moment donné, il faut que t'investisses. Fait que là, ton cash, il fait comme... OK.
Mais là, on est sur audio, donc il faut que tu expliques.
Je m'excuse, il faut que je mime beaucoup, OK? Fait que là, dans le fond, imaginez que j'ai... Je peux pas dire imaginez que j'ai deux mains. OK. Fait que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand tu vends, OK? Fait que là, tes revenus augmentent un petit peu. Puis là, tu dis, ah, ben crime, là, clairement, en ce moment, je suis juste plus capable d'aller chercher plus de clients parce que comme ma tête va exploser, mais j'ai plus assez de bras puis de jambes, donc je vais embaucher. Ou tu sais, des fois, c'est juste, je vais acheter un nouveau logiciel ou quoi que ce soit. Mais ce qui se passe quand tu fais ce genre d'investissement-là, parce que l'idée, OK, c'est qu'à un moment donné, comme je disais, opérationnellement, ta business est plus capable d'en prendre plus. Donc là, t'as pas le choix de faire des investissements, je veux dire un mot plus technique, des investissements en infrastructures. Donc, ça peut être des infrastructures logicielles ou des infrastructures humaines, OK? Mm-hmm. Disons-le comme ça. Puis, à toutes les fois que tu investis dans des nouvelles infrastructures, nécessairement, tu dois débourser de l'argent pour acquérir ces nouvelles infrastructures-là. Que ce soit, encore une fois, des humains. Bon, on n'achète pas des humains, là, comprenez-moi bien. Mais, tu sais, l'idée, c'est que, ben, dans un premier temps, il va falloir que tu débourses de l'argent. Puis, il y a aussi le fait que, autant quand c'est logiciel que quand c'est des humains, ta productivité à court terme, des fois à moyen terme, va aussi diminuer parce que là, tu as le onboarding, tu as l'apprentissage d'un nouveau logiciel. Fait que la croissance, en réalité, est jamais parfaitement linéaire. Tu passes tout le temps par palier de « mes revenus augmentent, je dépense plus, je perds de l'efficience. Ah, bon, là, on est bien arrimé, je suis capable de retourner au même niveau de profit qu'avant. Ah, là, je suis capable de continuer. » Puis en fait, c'est une game de « je monte des escaliers, là. » C'est ça, la croissance. Puis ce qui arrive aussi, c'est que des fois, il y a un escalier qui peut-être, pour ton entreprise, vaut pas la peine d'être monté. Parce que des fois, monter la marche de des investissements est tellement élevé que les revenus que tu peux en tirer valent pas nécessairement la peine. Puis qu'en réalité, pour faire plus d'argent, pour faire plus de profit, t'es mieux de rester à ta marche en ce moment. Fait que tu sais...
Mais c'est là... que je trouve ça intéressant de relier encore à cette capacité mindset parce que je pense que... Merci d'avoir expliqué les escaliers parce que les gens pensent que la croissance, c'est le fun. Mais la croissance, c'est la partie pas le fun.
C'est rough croître, là. C'est très difficile.
C'est la partie douloureuse parce que, justement, tu dois faire un input encore plus grand que ce que tu étais habitué à faire. Tu dois justement prendre des risques qui sont souvent plus grands, tu sais. Plus tu montes dans l'escalier, plus ça fait peur de regarder en bas. Fait que, dans le fond, c'est là que je trouve que d'en revenir à ce concept de capacité émotionnelle, psychologique, c'est intéressant de le voir en parallèle parce que dans ces escaliers-là, il y a un travail qui est est-ce que tu es préparé comme leader, comme CEO, à faire ce step.
Est-ce que t'en as envie? Parce que c'est tellement facile des fois de voir juste la portion revenu, puis ah oui, moi je vais atteindre le 2 millions de chiffre d'affaires. Ouais, mais tu sais, 2 millions de chiffre d'affaires, puis ça je le dis souvent, là, j'ai pas les chiffres à côté de moi, mais tu sais, 2 millions de chiffre d'affaires, là, ça implique que t'aies genre 70 000 de dépenses mensuelles. T'as-tu vraiment envie de le faire? T'en as-tu vraiment envie, là? Moi je sais qu'avec des enfants en bas âge, là, hell no! Genre, je ne veux pas ce stress-là en plus, tu sais. Fait que, tu sais, oui, puis je pense que c'est là aussi que les deux, donc la capacité opérationnelle puis le mindset deviennent tellement importants ensemble où, tu sais, d'un côté, tu calcules la capacité de ton entreprise en ce moment, tu observes que ta capacité est atteinte, tu calcules qu'est-ce que ça te prend pour aller plus loin avec ton entreprise au niveau opérationnel, donc c'est quoi les coûts? C'est quoi le temps qu'il faut que j'investisse? Puis là, tu fais le check-up avec ton mindset. Est-ce que j'ai de quoi aussi investir de mon côté à moi, à l'intérieur de moi, pour être capable de amener ça à la prochaine marche, tu sais? Mais c'est ça, c'est vraiment une game de ping-pong, là. Mais tu sais, encore une fois, l'idée que le mindset est l'unique solution à ça, non. Sorry, mais non, là, pour croire, t'as vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intérieur de ta business. Puis, tu sais, je pense que c'est pas pour rien, là, tu sais, toutes les entrepreneuses qui font dans les multiples chiffres parlent tout le temps de l'importance des systèmes. Ça, c'est le mot comme fancy pour dire les opérations aussi, là, tu sais. Tu le sais tout que tu as besoin de ça pour aller à travers ça, tu sais.
Écoute, moi, j'ai fermé Money Brand parce que je suis en train de développer un programme sur les systèmes. Puis moi, je les appelle des systèmes de régularisation, mais c'est la même chose que ce dont tu parles. C'est juste de dire, tu sais, quand il y a une déstabilisation, comme par exemple à travers de la croissance ou même à travers... un moment de stabilité où est-ce que t'es comme « Ah, je sais pas si ça va aller vers le bas ou vers le haut. » Quand il y a des moments de déstabilisation, ben, il faut que t'aies des systèmes en place qui vont te supporter pendant que toi, tu travailles à onboarder de nouvel employé, travailler sur ton mindset, aller dormir parce que, tu sais, t'es juste...
c'est quand même le fun une fois de temps en temps.
Puis être capable de laisser ces espaces pour le système de comme... respirer, mais aussi s'ajuster. Parce que je pense que dans cette idée de croissance exponentielle ou de croissance point, les gens oublient le palier, comme tu dis, de stabilisation.
Ouais. Ouais, puis c'est super important, là. Tu sais, puis quasiment à chaque palier, il faut que tu revoies quasiment toute la structure de ton entreprise, là. Ben, peut-être pas, genre, peut-être pas drastiquement au complet, mais tu sais, surtout quand t'es petit, puis que là, justement, tu sais, même la première tâche que tu délègues, même si c'est juste ta tenue de livre, faut tout que tu revoies comment tu fonctionnes, tu sais. Ah, ben là, tout à coup, faut que je partage mes fichiers. Ah, ben, j'ai pas de système sécurisé pour le faire. Ah, faut que, tu sais, il y a tout le temps, à chaque chose de croissance que tu fais, surtout quand t'es au début, faut vraiment tout que tu revoies si ta façon de faire actuelle fonctionne. Fait que, tu sais, oui, la façon que ton entreprise est construite, tu dois être capable de t'appuyer dessus pour être capable de monter la marche. Je trouve vraiment que c'est une belle façon de le dire.
Puis toi, dans ton entreprise à toi, parce que, bon, tu sais, t'as tes deux enfants en bas âge, puis ça a été comme une game quand même assez intense dans les dernières années.
Ouais.
Est-ce que c'est au moment où t'étais... Ben, je dis pas que tu as pensé pendant le congé de maternité ou peut-être, genre, à ta capacité, mais quand tu as fait ce changement de positionnement, est-ce que c'était en lien avec ton changement aussi au niveau de ton rythme de vie, puis au niveau de ce que toi, tu pouvais évaluer qui était ta capacité personnelle à être présente pour ta business?
C'est une bonne question. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte dans pourquoi j'ai fait le switch. Puis, tu sais, une de ces... mon Dieu, c'est qu'il y en a... Ça a comme été un choix qui s'imposait de lui-même parce que tout me disait que ça fonctionnait pas, là, tu sais. Si je peux juste faire le tour un petit peu des choses qui se passaient. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est vulgariser, c'est créer, c'est mathématiser des choses. Puis là, tu sais, dans la structure que j'avais créée, peut-être, je vais revenir un petit peu de pourquoi c'était peut-être trop à la hâte. Ben, j'étais rendue gestionnaire de projet dans mon entreprise. C'est pas quelque chose qui me plaisait. Je n'aimais pas ce rôle-là. OK? La raison, ensuite, pour laquelle j'ai voulu croître trop vite, c'est parce que j'étais enceinte. Puis j'avais envie que ma business continue de me supporter. Mais tu sais, là, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, je me suis lancée à temps plein en business en janvier 2020, puis là, j'ai embauché un an plus tard, OK? Puis là, j'ai voulu qu'un an et demi plus tard, ma business puisse m'auto-suffire à faire de la recherche et développement. Genre, je sais pas dans quel monde comme j'étais, là, mais comme littéralement, c'était comme... Ça n'aurait pas été possible. Peut-être si j'avais eu un partner, quelqu'un qui avait le même bagage que moi, puis que j'aurais pu, tu sais, laisser reposer des choses sur ses épaules, ça aurait pu fonctionner. Fait que, tu sais, mettons, puis ça, c'était à l'approche de ma deuxième grossesse. Puis, tu sais, ma première grossesse a été vraiment facile. J'ai été capable de travailler, tu sais, genre, littéralement, je travaillais 30 heures semaine avec mon bébé tout le temps couché sur moi. Genre, ça, c'était ça, OK, mes premiers mois post-bébé 1, OK. Mais là, tu sais, je savais que ça fonctionnerait pas pour le deuxième, puis on dirait que là, ça s'en venait, puis c'était juste comme un gros tas de too much, là. C'est un gros tas de too much. Puis tu sais, quand les enfants sont petits, ils demandent juste tellement, là. Tu sais, genre, il y a pas un montant d'argent qui justifie le fait que je me mette dans le stress, genre, dans le fond du trou, puis que je manque d'énergie pour être là pour ça. Tu sais, quand ils vont être rendus à l'école, puis plus tard, je veux dire, aujourd'hui, comme t'es encore hot, rendu à 70 ans, là, on s'entend-tu qu'on a du temps devant nous, là? Il y a rien qui justifie que maintenant, je priorise la croissance de ma business alors que j'ai des moments précieux à vivre. Puis pour moi, ça a juste été comme d'une évidence. Fait que là, il y a ça. Puis j'ai skippé une portion de ta question qui était la capacité. Ça a quand même été un autre en fait, ça n'a pas nécessairement été l'enjeu. Ouf, mon Dieu. Ça a été. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, là. Je sais pas quelle partie prendre. Ouais.
Ben, est-ce que toi, pour toi, il y a eu peut-être du travail justement de mindset à faire pour arriver à prendre ces décisions-là?
Ouais, belle poque passée. Je pense que quand j'ai décidé de carrément downgrader ma business, il n'y a pas vraiment eu de... J'étais juste épuisée, rendue là. J'étais juste épuisée, puis je savais que je voulais me concentrer sur ma qualité de vie de ma famille. Après ça, je pense que ta question, elle se repose bien un petit peu plus tard. Donc, quand j'ai recommencé, tu sais, tranquillement, pas vite à faire des activités, puis, tu sais, là, c'est ça, avec deux enfants, c'est vraiment plus challengeant, on s'entend. Puis là, d'observer ma propre capacité à remplir des mandats, ma propre capacité dans une semaine, tu sais... Je veux dire, pendant quasiment un an, j'ai roulé avec de 10 à 15 heures de travail sur ma business par semaine. Puis, ouais. Tu sais, je crée beaucoup de contenu. Ça veut dire qu'il ne me restait pas beaucoup de temps pour faire des mandats. Puis à travers ça, j'étais très fatiguée, puis j'avais pas la bande passante mentale pour réaliser des mandats non plus. Fait que, tu sais, il a vraiment fallu... Je pense que j'ai eu un deuil vraiment à faire dans la dernière année. Tu sais, là, ça commence à se rétablir, là. J'ai vraiment eu un deuil à faire sur ma capacité personnelle à accomplir des choses. Puis, tu sais, je pense que ce que je trouvais difficile, c'est que j'étais capable de la calculer, ma capacité, mais j'étais habituée de la calculer avec... ma capacité mentale d'avant. Fait que là, de devoir tout réajuster, le fait que ben ça me prenait 2 à 3 fois plus de temps à faire une tâche, que tu sais, ça là, de réaliser en fait que mon 10 à 15 heures par semaine maintenant équivalait à 5 heures avant, tu comprends? Ça a été un gros deuil. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de travail sur moi-même à faire pour juste accepter que, tu sais, je sais que mon choix, ça a été de me concentrer, tu sais, sur la famille avant tout, mais tu sais, je veux dire, je pense que tu le sais aussi, là, tu sais, quand t'es carriériste, t'as envie de te réaliser, puis c'est vraiment difficile d'accepter de mettre ça sur ralenti, là.
Ouais, ralentir. Puis là, est-ce que tu sens que t'as trouvé un bon rythme de croisière?
Non, je pourrais pas dire ça, là, tu sais, on en parle un petit peu avant, mais ça fait quand même plusieurs semaines que mes enfants dorment pas en ce moment. Fait que, tu sais, mon plus jeune est rentré à la garderie, puis comme, tu sais, à partir de quasiment juste après, les enfants se sont mis à pas dormir. Fait que, tu sais, j'ai pas, même si j'ai plus de temps dans mes semaines, j'ai de la misère à produire quand même autant qu'avant, là. Fait que, tu sais, il y a certaines affaires qui se placent. Je suis capable de me créer un petit peu plus de temps, peut-être, mais non, je pourrais pas dire que j'ai repris mon rythme encore. Non, puis je trouve ça difficile en ce moment aussi. Je trouve ça difficile quand je regarde, tu sais, mettons, ma planification de, tu sais, parce que les projets que je fais en ce moment, ça fait longtemps que je les ai mis dans mon dream list. Ça fait longtemps que j'ai fait de la planification pour ça. Tu sais, je me rends compte, tu sais, je suis fière là, de ce que j'ai accompli, là. Tu sais, je veux dire, à travers tout ça, j'ai quand même réussi à en faire des affaires, là, tu sais, justement, parlant d'affaires, tu sais. Ma plateforme de ressources en ligne s'est ramassée dans ce journal-là, les affaires, tu sais. C'est pas rien, là, tu sais. Ce que j'ai fait, c'est quand même beau, c'est quand même gros, quand même. Mais c'est pas, tu sais, où est-ce que j'en suis en ce moment, c'est où est-ce que je pensais que j'étais pour être il y a 6 mois.
OK.
Fait que c'est là, tu sais,
grand retard quand même.
Ben non, ça dépend à qui tu le dis là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste que tu sais, je suis quand même pas mal en retard sur vers où j'aimerais être, mais tu sais encore là, ça veut dire quoi être en retard ou être à l'heure là? Genre il y a personne qui m'attend là.
Il y a personne. Il y a personne qui t'attend puis tu sais, je veux dire je réfléchis beaucoup en cycles ces temps-ci, tu sais, puis de réaliser que tu sais, on a des cycles qui sont mais on vient de le dire, tu sais, quand on parle de le fameux escalier, tu sais, t'as des cycles de stabilisation, t'as des cycles où il faut que tu te concentres sur, tu sais, l'interne, puis il y a des cycles où t'es vraiment plus dans l'externe, puis j'essaie de, moi, perso, genre, de faire la paix avec ça aussi beaucoup, là. Parce que la façon dont on réfléchit la productivité est tellement linéaire que ça prend pas en compte le cycle organique de nos corps, bien souvent.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, encore une fois, c'est d'autant plus flagrant quand t'as une petite entreprise. Tu sais, quand t'as une grosse entreprise, puis t'absorbes les variations émotionnelles de tout le monde, je veux dire, ça finit par être tout le temps la même affaire. OK? Mais quand t'es juste toi ou que t'as une petite équipe, je pense que n'importe quelle entreprise en bas de 10 employés vit les mêmes struggles. Tu sais, un impact sur toi. Impact juste tellement beaucoup la business que là, t'as pas le choix de prendre en compte, là, tu sais.
Ouais. Non, tout à fait. Puis, dans tes calculs, là, si on veut laisser les gens peut-être avec des pistes, peut-être d'application, des choses comme ça, tu sais, justement, là, t'as parlé du 10 à 15 heures semaine, puis je pense que t'as quelques articles qui sont intéressants sur cette notion-là, hein, parce que...
Ouais.
tu parles beaucoup aussi ces temps-ci d'entrepreneuriat à temps partiel, puis de,
ouais,
de ces types de conciliation-là, même si, bon, c'est peut-être pas le terme, je sais pas si tu utilises ce terme-là dans ton...
Ça peut être, conciliation, oui.
Mais, tu sais, parce que là, j'ai l'impression qu'on a parlé d'une troisième capacité qui est comme notre capacité énergétique aussi. Là, ben, est difficile des fois à calculer, ouais, à moins que... Moi, perso, j'aime suivre mon cycle menstruel au moins pour avoir une petite idée là,
de mon
vie, mais quand on a des... Tu sais, avec tes enfants, c'est presque impossible de savoir où... qu'est-ce qui va se passer, tu sais, dans leur réalité, puis comment tu vas devoir être présent avec, ouais, présente avec eux. Fait que je pense que ça, c'est peut-être le grand inconnu là, dans ce qu'on a discuté, tu sais.
Ouais.
Mais si on veut commencer avec peut-être des ressources que tu aurais pour calculer la capacité, un, du modèle d'affaires, puis...
Ouais.
Deux, du temps qu'on a de disponible.
Là. Ouais, j'ai pas encore de... Un jour, quand j'aurai le temps, j'aimerais ça vraiment faire quelque chose de super intégré qui est capable de te mener comme pas à pas à travers les différentes étapes. En ce moment, les étapes sont là, mais en pièces détachées. Hein? Fait que si tu veux que je les attache pour toi, call me, on va se voir, on va le faire ensemble.
Dans le groupe de Hélène Sarah.
Exact. Mais, tu sais, fait que pour ta première question, la capacité de ton modèle d'affaires, tu sais, la capacité de ton modèle d'affaires, tu sais, comme je disais, le premier élément pour moi à calculer, c'est la partie qui est plus de tes clients. Fait que le revenu, tu es capable d'aller chercher. Puis ça, je pense, tu sais, ça fait qu'il y a quand même plusieurs petits éléments là-dedans. Celui-là, c'est en fonction de tes actions que tu poses, de visibilité, marketing, combien d'argent tu es capable d'aller chercher avec ça. Parce que là, ça, c'est peut-être un autre aspect de la capacité. Tu sais, en fait, il y a la capacité de ton entreprise à produire. Je reprends une usine, OK, comme exemple. Fait que tu pourrais avoir une usine qui est capable de produire 100 000 t-shirts par jour, mais si tu vends juste à un village de 4 personnes, tes ventes vont quand même être de 4. Mm-hmm, tu comprends? Mm-hmm. Même si ton usine est capable d'en faire 100 000, OK? Mm-hmm. Fait que là, on s'entend que tes revenus maximum sont aussi influencés par... la grosseur de ton bassin de clients.
De ton audience.
Exactement. Fait qu'il y a ça d'un côté que je pense qu'il est essentiel à calculer, parce que je vois beaucoup de gens, puis là même moi, des fois, ça m'arrive de faire l'erreur de juste regarder ma capacité opérationnelle puis de prendre ça pour faire mes prévisions de revenus. Mais il manque vraiment un élément important qui est celle de à qui je peux le vendre, tu sais, right? En fonction de tes offres, tout ça. Fait qu'il y a celui-là. Ensuite, au niveau de ta capacité interne, honnêtement, moi, mon préféré, celui que je trouve qui fait tout, c'est le budgétant. Okay? Mm-hmm. Puis là, j'ai deux versions budgétant. La version qui est disponible directement au lebudgétant.com, qui est directement en ligne. Okay? Fait que tu rentres tes informations, puis il te donne un... Tu sais, c'est directement sur le web, fait que là, il te donne déjà une préanalyse, puis c'est bien cute. Fait que ça, c'est la version simplifiée, puis il y en a une autre qui vient avec un fichier Excel qui est un petit peu plus costaud. C'est vraiment une mini-formation en soi, là. Les étapes d'explication sont quand même bien documentées. Genre, honnêtement, ça pourrait être une formation que je vends 200$ sûrement, là, puis je le fais pas parce que, genre, je vous aime, là, whatever. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ça regarde vraiment, tu sais, t'as 15 heures par semaine à mettre, ben ça va te dire par rapport à ton 15 heures par semaine que t'es prêt à mettre. C'est quoi? Ça ressemble à quoi ton revenu max aussi? Tu sais, là, c'est sûr qu'il y a peut-être certaines affaires à interpréter là-dedans, mais tout est pas mal bien expliqué. Fait que ça sert, tu sais, je veux dire, j'ai pas à le prévendre là-dessus, là. Mm-hmm. Allez le faire, vous allez voir. Mais ça donne une idée de la capacité parce que, tu sais, des règles du pouce que j'utilise, c'est que peu importe le nombre d'heures que tu travailles dans la semaine, ça va être difficile d'aller facturer plus que 50% de ton temps. OK? Mm-hmm. Puis même, je te dirais, quand tu travailles juste 15 heures semaine, tu passes tellement pas beaucoup de temps à faire des ventes et marketing que même des fois, ça pourrait être un petit peu moins que ça. Tu sais, soyons réalistes, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, mettons, c'est ça, sur 15 heures par semaine que tu travailles, tu peux facturer 7,5 heures. Ou tu sais, si tu vends des formations, ben tu peux travailler sur ta production, si on veut, juste 7,5 heures semaine. Mais 7,5 heures semaine, là... j'en faisons un calcul rapide, là, OK? Si tu travailles... oui, je sors ma calculatrice en ce moment. OK, fait que 7,5 heures semaine, mettons que tu travailles à 100 $ de l'heure en moyenne, OK? Bien, ça, c'était facile. C'était 750 $ par semaine en revenus, en chiffre d'affaires que tu peux faire. Il y a 4,3 semaines dans un mois. Bien là, je suis bien désolée de t'annoncer que le revenu maximal que tu peux faire par mois, c'est 3 225. Puis là-dessus, tu n'as pas pris de vacances.
Mm-hmm.
OK?
Mm-hmm.
3 225 en chiffre d'affaires. OK? Là-dessus, tu as tes dépenses d'entreprise à assumer, puis là-dessus, tu as tes impôts. Si tu es travailleur autonome, tes impôts sont plus élevés que ceux d'un salarié. Fait qu'attends-toi à garder peut-être 30 % de ça. Ça fait grosso modo 1 000 $ de revenus que tu vas garder. C'est pas mauvais, là. Si tu travailles 15 heures semaine puis que tu as un bébé à côté de toi, là, honnêtement, déjà là, je te dis genre félicitations, right? Sauf que je pense qu'on est clair que c'est pas le 10 000 que tu souhaitais, là.
Ouais. Ouais, puis tu peux pas travailler 150 heures semaine.
C'est pas possible non plus. Ben non, exact, c'est ça.
Fait que c'est ça que ton outil nous permet de voir aussi. Fait que d'avoir un peu, des fois, la douche froide.
Oui.
Mais aussi, après ça, de pouvoir se baser sur des chiffres qui sont réels, puis de dire, ben, est-ce que c'est le moment de revoir mon modèle d'affaires? Est-ce que c'est le moment d'investir davantage en marketing? Est-ce que c'est le moment...
Exact.
C'est où l'enjeu pour moi au niveau de la croissance que j'espère avoir.
Exactement, parce que si tu fais pas cet exercice de bilan-là, puis que tu te lances dans n'importe quelle affaire que tu vois en ligne, ben statistiquement, il y a des bonnes chances que ce soit pas la bonne affaire que tu vas faire. Fait que, tu sais, les chiffres, tout ce qu'ils te disent, c'est, ben voici où devrait être ta priorité, parce qu'en ce moment, c'est là que t'as un bloquant, tu sais. C'est tout ce qu'ils font, les maths, là, tu sais. Après ça, c'est ça. C'est à toi de travailler ton mindset pour overcome ces obstacles-là, là, tu sais.
Quand t'es comme trop démoralisé parce que là, t'es comme, ah, oh, j'ai trop de temps-là.
Oh là là.
Nice. Hélène Sarah, merci tellement d'avoir parlé de tout ça. C'est super illuminant. Et où tu veux qu'on te suive? Si on aimerait découvrir ton travail.
Une bonne question. C'est en si je suis très Instagram, fait que vous pouvez venir me voir là. Puis sinon, allez directement sur CalculSA, mon site de ressources. Allez explorer ça. Dites-moi c'est quoi vos besoins. Amusez-vous. Puis on reste en contact.
Ouais, puis t'as ton groupe aussi qui est un groupe payant, mais c'est...
Ouais, exact.
Ça, c'est plus... c'est pas très cher, là, by the way.
Non, c'est vraiment pas très cher. Non, c'est ça, t'sais, l'idée de ce groupe payant-là, en fait, c'est que, tu sais, justement, les ressources sont gratuites, puis je sais, des fois, il y a des petites zones d'ombre où, tu sais, ah, ben moi, ça m'a donné ça, ce chiffre-là, mais mon entreprise, elle a telle particularité, fait que comment je peux l'interpréter? Ben le groupe sert à ça, puis justement, il a été voulu pour être accessible, pour que ce soit un no-brainer, puis que les gens viennent poser leurs questions, parce qu'on se mentira pas, faire du travail individuel avec moi, c'est pas mal plus cher, OK? Mais tu sais, ça donne vraiment une belle façon de, tu sais, puis peut-être aussi que ça va inspirer d'autres personnes à côté, puis tu sais, cet aspect-là de discussion, des fois, qu'on est capable de peut-être un petit peu plus démêler les choses. Fait que c'est vraiment le plus, c'est la portion 1 du support qui vient avec les outils,
avec
finalement.
Avec toutes tes ressources gratuites.
Ouais.
Génial! Merci beaucoup, Hélène Sarah, pour ton temps, pour ton énergie, pour ton focus pendant ce
dernier.
On sait que ce sont des ressources précieuses ces temps-ci.
Absolument.
Donc, merci encore. On va mettre les liens vers le budgétant, vers ton Instagram, puis ton groupe.
Excellent.
Et ton CalculSA, en fait, dans les notes de l'épisode pour celles qui veulent aller regarder. Et puis, on se dit à bientôt, j'espère.
À bientôt, merci.
Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.